Bonjour Tiffaine et bon après-midi à vous. Aujourd'hui dans la compagnie, c'est la remise des copies. On corrige ensemble quelques exercices en vue du bac de français.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à tous et bonjour à toutes. Les révisions pour le bac de français nécessitent de se replonger dans quelques grands classiques de la littérature française qui fournissent de nombreux exemples pour réfléchir et argumenter en vue notamment de l'exercice de dissertation. C'est pour cette raison que la compagnie vous a proposé cette semaine de revenir sur trois œuvres essentielles au cours d'émissions que vous pouvez bien entendu télécharger sur toutes les bonnes plateformes. Lundi, nous nous sommes donc penchés sur Madame Bovary de Flaubert, roman qui raconte l'effet que produit la littérature sur les âmes un peu trop romantiques. Mardi, avec Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand, nous étions au cœur d'une œuvre qui achève et condense toute une époque du théâtre, depuis le classicisme jusqu'à la fin du 19e siècle. Et hier, nous sommes revenus sur la célèbre bataille qui a entouré la représentation d'Hernani, la pièce de Victor Hugo, c'était à la Comédie Française en 1830, et qui est aujourd'hui devenu un manifeste pour un renouveau du théâtre. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, une émission remise de copies. Alors, ceux qui nous écoutent en podcast peuvent, s'ils le souhaitent, appuyer sur la touche pause et aller chercher sur les réseaux sociaux de l'émission les sujets que nous allons corriger aujourd'hui afin de s'y entraîner. Mais si vous préférez passer simplement un moment avec nous à réfléchir sur un sujet de dissertation et à analyser un extrait de La Curée d'Émile Zola, eh bien, ne changez rien. Bienvenue en tous les cas. Voici la compagnie des auteurs.
Leur table était placée devant une des fenêtres. Ce spectacle des toits de Paris égaya Saccard. Au dessert, il fit apporter une bouteille de Bourgogne. Il souriait à l'espace. Il était d'une galanterie inusitée. Et ses regards, amoureusement, redescendaient toujours sur cette mer vivante et pullulante d'où sortait la voix profonde des foules. On était à l'automne. La ville, sous le grand ciel pâle, s'alanguissait d'un gris doux et tendre, piqué çà et là de verdure sombre, qui ressemblait à de larges feuilles de nénuphar nageant sur un lac. Le soleil se couchait dans un nuage rouge, et tandis que les fonds s'emplissaient d'une brume légère, une poussière d'or, une rosée d'or tombait sur la rive droite de la ville, du côté de la Madeleine et des Tuileries.
Un extrait lu par Garance Mazelier de La Curée, donc de Zola, pour se mettre un peu dans l'atmosphère citadine du Paris, tel que vu par le personnage de Saccard. Il s'agit du début de ce texte qui va nous servir pour le commentaire d'aujourd'hui et que nous entendrons tout à l'heure dans son intégralité. La ville, c'était donc le thème retenu pour les séries ES et S des établissements d'Amérique du Nord en 2018. Nous allons travailler sur ce corpus aujourd'hui avec donc Garance Mazelier, étudiante en littérature et stagiaire à la compagnie, tout comme le fut Gauthier Amiel, qui termine sa première année comme enseignant de français au lycée Frédéric Mistral de Fresnes après avoir obtenu l'agrégation de lettres l'an dernier. Et enfin avec Hélène Merlin-Cajman, professeure de littérature à l'université Paris 3, spécialiste des questions de pédagogie et de didactique, autrice du livre La dissertation littéraire aux presses de la Sorbonne Nouvelle. Bonjour à vous trois. Alors dans le sujet du bac de français, il y a toujours un corpus et dans celui que nous avons choisi, on retrouve donc quatre extraits, La Curée de Zola, un extrait aussi des Mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar, un extrait du Chien jaune de Simenon et enfin un extrait du roman Le Grand Paris d'Aurélien Bélanger. Alors Garance Mazelier, on va commencer avec vous. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce corpus et sur finalement ce qui relie tous ces textes, c'est-à-dire le thème de la ville?
Oui, alors c'est donc un corpus d'extraits de romans. qui commence au 19e siècle et qui se termine avec un roman très récent, donc qui date de 2017. Et on voit que chaque texte porte un regard différent sur la ville. Alors on a deux fois la ville de Paris avec Zola, donc avec un Paris en plein dans les travaux d'Haussmann, et Aurélien Bélanger qui propose une vision de Paris et ses banlieues alentours.
Du grand Paris pour le coup.
Voilà, exactement, du grand Paris. Ensuite on passe avec Yourcenar dans la Rome antique et ses excès à son apogée. Donc il y a toutes les... La vision apocalyptique de Rome à ce moment-là qui rappelle un peu celle qu'on voit chez Zola. Donc là, il y a des liens à faire entre ces deux textes.
L'idée aussi d'une ville de Rome qui s'étend hors de ses limites habituelles.
Oui.
Il y a une comparaison entre les villes grecques qui sont des villes un petit peu enserrées
fermées,
à l'intérieur
oui.
de remparts, plus ou moins, et les villes romaines qui deviennent des villes-états.
Oui, tout à fait. Et enfin, dans ce corpus, il y a un texte qui est peut-être un peu à l'écart des autres. C'est le texte de Simenon, parce que la ville est vraiment beaucoup plus petite que les autres. Et la focalisation, la focalisation se porte beaucoup moins sur l'urbanisme et l'architecture de la ville, comme chez les autres auteurs, que sur ses habitants dont on a les silences et les curiosités qui en disent long. Donc cette question de corpus, on voit qu'elle pose la question de la focalisation, quel regard les personnages portent-ils sur la ville. Donc on pourra parler éventuellement de la personnification de la ville. Par exemple, est-ce que les villes deviennent humaines? Est-ce qu'elles deviennent monstrueuses? Et en fait, les villes deviennent elles aussi des personnages.
Donc il y a plusieurs manières de voir la ville. Chaque écrivain la voit à sa façon. Gauthier Amiel, qu'est-ce qui vous semble relier les différentes visions de la ville de ces différents textes? Et finalement, qu'est-ce que vous auriez envie de dire plus généralement sur les choix qui ont été opérés en cette année-là par les examinateurs, par ceux qui ont donné le sujet de ces textes?
Alors, ce qui me semble intéressant tout d'abord, c'est moins les points communs que la différence, enfin, a priori, du texte de Yourcenar, puisque si c'est un texte qui est écrit en 51, en fait, l'histoire se passe à un autre moment, enfin, on n'est plus du tout dans le même référentiel historique que les trois autres textes.
On est dans l'Antiquité, du temps de l'empereur Adrien.
C'est ça, exactement, et je pense qu'il faut pas... Il faudrait faire attention à ne pas mettre ce texte pour cette raison de référentiel culturel et historique, à l'écart des trois autres, et précisément, malgré cette différence, essayer de faire des liens. Et je pense que ce que disait Garance Mazelier était très intéressant. Le point commun, à mon avis, dans ce corpus, c'est de voir en quoi les villes se transforment ou de quoi les villes sont le nom, parce que c'est particulièrement sensible dans La Curée de Zola, et c'est... bel enjeu, je pense, du commentaire, mais de voir à quel point les villes se transforment sous, d'une part, le regard des personnages, mais aussi sous la plume des écrivains. Et à quel point ces villes deviennent, ou ces descriptions de villes deviennent un morceau de bravoure qu'il faut analyser comme tel. Et je pense que les stratégies d'écriture de la transformation de la ville sont sans doute une entrée intéressante, une belle entrée pour cette question de corpus.
Le texte de Simenon, Hélène Merlin-Cageman, est un petit peu à l'écart, parce que ça se passe certes à l'intérieur de la ville, mais un petit peu comme n'importe quel roman peut situer son action dans une rue. La ville y est moins présente. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce
corpus ? Exactement en train de penser à ça en écoutant ce que vous disiez l'un et l'autre. Il me semble que là, on voit comment Simenon mobilise plutôt le topos du petit quartier populaire, malfamé,
faut dire aux auditeurs
on pénètre comme si c'était dans lequel on pénètre, comme si c'était une espèce de ville dans la ville. Et là, on peut pas s'empêcher de penser à Notre-Dame de Paris. Enfin, je veux dire à la Cour des Miracles. Il y a cet imaginaire du secret du secret des villes, dans le cœur de la ville. Donc, c'est pas tellement une affaire de transformation, c'est une transformation comme implicitement, d'ailleurs, puisque dans ce passage qu'on a.
Il faut dire de quoi il s'agit. C'est une scène où un chien se fait traumatisé, se fait envoyer des pierres, se fait lyncher, envoyer des pierres par les habitants de la ville.
Par les habitants, parce que on comprend que le chien doit être un témoin ou une trace importante d'un crime sur lequel Maigret arrive pour enquêter. Et effectivement, d'ailleurs, il y a comme ça des cercles concentriques, ce qui est sans doute assez typique d'un certain imaginaire de la ville dans la littérature, où loin d'exploser, loin de se transformer, loin de se détruire, elle abrite un cœur du cœur inquiétant. Donc c'est aussi l'idée des dessous de la ville, mais cette fois-ci, ce sont des dessous à la fois sociaux et architecturaux, ou en tout cas urbains au sens des rues, de ce type d'éléments de la ville. Voilà ce qui m'a frappé dans le texte de Siménon.
Alors cette première analyse qu'on vient de faire, est-ce qu'elle va nous servir ensuite pour l'exercice de commentaire de texte et pour l'exercice de dissertation?
Il me semble que oui, pour l'exercice du commentaire de texte, qui est donc ce qui est demandé aux élèves, c'est de commenter le premier, celui de Zola, l'extrait de la curée, parce que la lecture des quatre extraits aura attiré l'attention, même sans qu'ils s'en aperçoivent, des élèves. Et puis, si je me souviens bien, il y a un des sujets qui porte sur la ville, d'ailleurs, ou non, la question première. Mais, et du coup, au fond, on les invite quasiment automatiquement à faire une partie du commentaire composé sur la ville d'une manière ou d'une autre. On verra comment, mais ça, c'est un... Par contre, pour la dissertation, pour le sujet de dissertation, alors là, pas du tout.
Le sujet de dissertation, on peut déjà le révéler, oui, même si on en parlera surtout en seconde partie.
Donc, dans un roman, les personnages ambitieux sont-ils les plus intéressants? Vous appuierez votre réflexion sur les textes du corpus, sur les œuvres que vous avez étudiées en classe et sur vos lectures personnelles.
Ouais. Mais ce corpus, est-ce qu'il ne peut pas brouiller aussi un petit peu les pistes? Et finalement, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses, on vient de le voir, dans ce corpus, est-ce que ça ne peut pas être, pour les candidats, quelque chose de plus gênant que quelque chose qui aide réellement Garance Mazelier?
Dans le cas de la dissertation, le corpus peut aussi aider les élèves à se rendre compte qu'il n'y a pas que des personnages ambitieux dans les romans, par exemple. Enfin, le fait d'avoir un corpus large, pas seulement composé de héros très ambitieux, peut aiguiller l'attention sur d'autres types de romans. Et c'est vrai que pour le commentaire, ça appellera forcément une partie sur la ville. En fait, ça oriente aussi la question.
Alors parlons du commentaire, hein, c'est ça qu'on va voir en première partie avec vous, Gauthier Amiel. Qu'est-ce que vous attendez, vous, quand vous donnez à vos élèves un commentaire à faire? Qu'est-ce qu'il faut absolument trouver dans les copies?
Alors moi, ce que je dis toujours à mes élèves, parce que je pense que c'est vraiment en tout cas c'est l'idée que moi je me fais du commentaire et qui n'est pas loin en fait de la dissertation, j'essaie de leur dire que c'est un exercice avant tout d'argumentation. Ils doivent me prouver, dans le commentaire comme dans la dissertation, avec des sujets différents et des enjeux différents, mais que leur lecture, soit du texte proposé à commenter, soit du sujet de dissertation, n'est pas forcément juste, mais est en tout cas toujours justifiable et justifiée par des exemples pertinents dans le cadre du commentaire, c'est-à-dire des citations qu'il faut analyser.
On peut dire ce qu'on veut tant qu'on le justifie vraiment ?
Ouais, le texte est une limite. On peut pas faire dire tout et n'importe quoi à un texte. Et précisément, l'analyse et l'interprétation au plus proche du texte et à la fois dans ce qu'il peut y avoir de très évident, mais aussi dans ses détails, est une limite précisément au discours qu'on peut tenir sur un texte. Mais ils doivent me prouver, parce que je pense qu'on va le voir, même s'il y a des attendus des choses évidentes qu'on doit dire sur un texte, il n'y a pas qu'un seul commentaire composé possible. Donc, avec 33 élèves, on a 33 commentaires différents, et il n'y en a pas forcément un plus juste que l'autre, mais il y en a un qui est peut-être plus justifié que l'autre. Et la pertinence du commentaire et la bonne note, puisque c'est quand même ça aussi un peu l'enjeu, elles viennent de cette capacité qu'auront les élèves à utiliser le texte et à en proposer une lecture intelligente, c'est-à-dire en fait avec sagacité, qui essaie de s'affronter au texte.
Et en même temps, Gauthier Amiel, on va voir dans vos corrigés, puisque je les ai lus en avant-première, enfin pas le vôtre, Hélène Merlin-Cageman, qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se ressemblent, comme quoi il y a peut-être aussi une manière de faire les commentaires qu'il faut suivre plus ou moins. Garance, sur la méthode, qu'est-ce qui vous semble incontournable et qu'est-ce qu'il faut absolument faire sur un commentaire?
Et alors là, il s'agit d'un texte d'un auteur plutôt classique qui tombe souvent au bac. Donc une certaine culture générale est quand même attendue de la part des élèves, donc de savoir qui est Zola et ce qu'il a écrit.
Mais ça, c'est difficile de préparer la culture générale en vue d'un examen, non?
Bah non, ça se fait toute l'année. Enfin, en tout cas, dans le cas de Zola, l'idée que c'est le chef de file du naturalisme et qu'il a écrit les Rougon-Macquart,
on doit le savoir.
Je pense. Mais bon, après, en tout cas, si on ne connaît pas l'auteur qui tombe, il faut mobiliser tout le paratexte, les dates qu'on peut trouver pour essayer de faire des liens avec ce qu'on connaît déjà et replacer l'auteur dans l'histoire littéraire. Et ensuite, je dirais faire une analyse linéaire du texte. Noter toutes ses premières impressions, parce que souvent les premières impressions sont intéressantes et puis on les laisse ensuite de côté et c'est bien d'y revenir. Et je dirais surtout si le texte est étonnant ou qu'il y a quelque chose qui gêne les élèves, il faut vraiment le noter et le souligner parce que c'est là qu'il y aura quelque chose d'intéressant à creuser, je pense.
Hélène Merlin-Cashman.
Oui, je voudrais simplement dire que il me semble qu'il y a un danger dans les connaissances si on les fait venir en premier, on risque toujours de les plaquer sur le texte. Hein, donc il faut qu'elles viennent aider ce qu'on a lu dans le texte. Régulièrement, moi j'ai vu dans ma vie des connaissances très mal utilisées, du genre si vous avez un texte de Victor Hugo qui sera plutôt, je sais pas, fantastique, expressionniste, vous allez plaquer le romantisme au sens du lyrisme personnel, par exemple. Et là, par exemple, le naturalisme, ça me paraît pas une bonne entrée immédiate ou pas nécessaire pour bien commenter ce texte-ci.
Ou alors en introduction, peut-être pour présenter.
En introduction, parce qu'on montre ses connaissances, qui est toujours bien de montrer des connaissances qu'on a. Mais du coup aussi, si on ne les a pas, c'est pas nécessairement grave. L'attention au texte lui-même et des connaissances techniques, disons, qu'est-ce que c'est qu'une description, qu'est-ce que c'est qu'un récit, qu'est-ce que c'est qu'un dialogue, etc., etc.
Vous pensez qu'on peut faire une très bonne, un très bon commentaire de texte, une très bonne copie, sans savoir, en l'occurrence, qui était Zola?
Oui. C'est un peu provocateur ce que je dis là, mais oui, absolument, oui.
Oui, je pense qu'on peut en faire un très bon, d'autant plus que précisément on sera perdu. Et comme on n'aime pas être perdu, et que j'espère que les élèves ne vont pas endurer ce sentiment un peu désagréable d'être perdu dans un texte pendant les 3 heures les 3 heures pendant lesquelles ils doivent rédiger. Il faut qu'ils se débattent avec le texte. Donc, sans avoir de connaissances auxquelles se raccrocher, en fait, ils doivent se débattre avec le texte. Et je pense que ça peut être extrêmement intéressant et, je le crois, stimulant de ne rien savoir sur un auteur pour commenter un de ses textes.
Mais vous, Gauthier Amiel, vous avez quand même relu tout le livre. Donc, c'est un petit peu un contre-exemple. Est-ce que vous pouvez nous parler La Curée de Zola, puisque vous l'avez relu, autant en profiter.
Oui, donc La Curée de Zola est en fait le deuxième tome des Rougon-Macquart, dont le sous-titre de cette œuvre est Histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire. C'est donc un ensemble de 20 romans qui n'est pas sans rappeler la comédie humaine balzacienne. Et donc dans La Curée, c'est en gros, donc on se trouve à Paris au moment des grands travaux haussmanniens et un personnage, Aristide Rougon, mais qui va changer de nom, Aristide donc qui devient Saccard, cherche à se faire une place et à gagner beaucoup d'argent autour de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la spéculation immobilière en réalité. Et bon, comme souvent chez Zola quand même, ça se termine assez mal. Et au milieu donc de ces considérations sur l'immobilier, la ville et l'enrichissement personnel, Aristide à une première femme dont il est question dans l'extrait proposé, qui va très vite décéder, et il se remarie avec René. Et au milieu donc des immeubles, René mène une vie, qui est faite de plaisir au début et qui va assez mal tourner puisque c'est une Phèdre moderne. Elle tombe amoureuse du fils de son époux, ils ont une histoire ensemble et voilà, tout se termine plutôt mal pour René, pour son époux, et il n'y a en fait que Maxime, donc le fils d'Aristide, qui s'en sort plus ou moins, mais qui, enfin, en tout cas, qui finit moins mal que les autres personnages.
Et alors, l'extrait qui a été choisi pour le bac, à quel moment du roman se situe-t-il?
Alors, c'est au tout début du roman, dans la première partie, puisque Angèle, donc la première femme d'Aristide, est encore vivante. Alors, comme j'ai relu le roman, le paragraphe qui précède, en fait, l'extrait proposé nous dit qu'il ne reste que 2 mois à vivre à Angèle. Donc, c'est un de ses derniers instants avec son époux. Et on est donc au tout début, au moment où Aristide n'est pas encore vraiment installé dans toutes les affaires, toutes les petites magouilles, en fait, qu'il va monter. Et il se projette complètement dans cette ville dont il veut être le maître de chantier, d'une certaine manière, et voilà, qu'il domine, qu'il souhaite dominer, en tout cas, avec une position à la ville, enfin, à l'hôtel de ville et une position dans différentes sociétés de construction.
Cet extrait, on l'écoute dans la voix de Garance Mazelier.
Leur table était placée devant une des fenêtres. Ce spectacle des toits de Paris égaya Saccard. Au dessert, il fit apporter une bouteille de Bourgogne. Il souriait à l'espace. Il était d'une galanterie inusitée. Et ses regards, amoureusement, redescendaient toujours sur cette mer vivante et pullulante d'où sortait la voix profonde des foules. On était à l'automne. La ville, sous le grand ciel pâle, s'alanguissait, d'un gris doux et tendre, piqué çà et là de verdure sombre, qui ressemblait à de larges feuilles de nénuphar nageant sur un lac. Le soleil se couchait dans un nuage rouge, et tandis que les fonds s'emplissaient d'une brume légère, une poussière d'or, une rosée d'or tombait sur la rive droite de la ville, du côté de la Madeleine et des Tuileries. C'était comme le coin enchanté d'une cité des mille et une nuits, aux arbres d'émeraude, aux toits de saphir, aux girouettes de rubis. Il vint un moment où le rayon qui glissait entre deux nuages fut si resplendissant que les maisons semblèrent flamber et se fondre comme un lingot d'or dans un creuset. « Oh, vois !» dit Saccard, avec un rire d'enfant. « Il pleut des pièces de 20 francs dans Paris. » Angèle se mit à rire à son tour, en accusant ces pièces-là de n'être pas faciles à ramasser. Mais son mari s'était levé, et s'accoudant sur la rampe de la fenêtre. « C'est la colonne Vendôme, n'est-ce pas, qui brille là-bas. Ici, plus à droite, voilà la Madeleine. Un beau quartier, où il y a beaucoup à faire. Ah, cette fois, tout va brûler, vois-tu ? On dirait que le quartier bout dans l'alambic de quelques chimistes. » Sa voix devenait grave et émue. La comparaison qu'il avait trouvée parut le frapper beaucoup. Il avait bu du Bourgogne, il s'oublia, il continua, étendant le bras pour montrer Paris à Angèle, qui s'était également accoudée, à son côté. « Oui, oui, j'ai bien dit, plus d'un quartier va fondre, et il restera de l'or aux doigts des gens qui chaufferont et remueront la cuve. Ce grand innocent de Paris, vois donc comme il est immense et comme il s'endort doucement. C'est bête, ces grandes villes. Il ne se doute guère de l'armée de pioches qui l'attaquera un de ces beaux matins. » Et certains hôtels de la rue d'Anjou ne reluiraient pas si fort sous le soleil couchant s'ils savaient qu'ils n'ont plus que 3 ou 4 ans à vivre. Angèle croyait que son mari plaisantait. Il avait parfois le goût de la plaisanterie colossale et inquiétante. Elle riait, mais avec un vague effroi, de voir ce petit homme se dresser au-dessus du géant couché à ses pieds et lui montrer le poing en pinçant ironiquement les lèvres. « On a déjà commencé, » continua-t-il, « mais ce n'est qu'une misère. Regarde là-bas. » Du côté des Halles, on a coupé Paris en 4. Et de sa main étendue, ouverte et tranchante comme un coutelas, il fit signe de séparer la ville en 4 parts. « Tu veux parler de la rue de Rivoli et du nouveau boulevard que l'on perce ?» demanda sa femme. « Oui, la grande croisée de Paris, comme ils disent. Il dégage le Louvre et l'hôtel de ville. »
Compagnie des auteurs et notre émission spéciale Bac de français. Alors Hélène Merlin-Cajman, qu'est-ce qui vous frappe de prime abord dans ce texte ?
Le texte, oui. Ce qui me frappe de prime abord, ça c'est difficile à dire parce que finalement j'ai tellement l'habitude de faire des commentaires composés que la règle d'or pour moi, c'est que plusieurs choses me frappent le plus vite possible.
Ouais, vous avez des clignotants.
J'ai des clignotants, exactement. ce qui me frappe, alors je dirais presque du point de vue justement de la professionnelle que je suis, c'est que c'est un texte très riche, mm-hmm. et donc a priori facile pour ce qui concerne le commentaire composé.
On ne peut pas se perdre justement dans sa richesse.
Bah, si vous voulez, on peut toujours, mais quand même, comme à mes yeux, l'idéal, c'est de faire trois parties, trois sous-parties. Plus un texte est riche, plus c'est quand même facile d'y parvenir.
Est-ce qu'on fait d'abord le plan ou est-ce qu'on réfléchit d'abord à une problématique ?
Alors ça, vous me posez une question qui est très, très intéressante. Parce que quand, personnellement, j'ai appris à faire un commentaire composé, puis quand je l'ai enseigné pendant de très nombreuses années, il n'y avait pas de problématique. C'était, ça a été une invention dont je ne sais pas trop de quand elle date. Et du coup, personnellement, désormais, quand j'enseigne le commentaire composé, cette question va revenir d'ailleurs pour la dissertation, puisque c'est absolument analogue. Je dis aux élèves, aux étudiants, pardon, maintenant je n'ai que plus des étudiants, de commencer par faire le plan, en pensant bien qu'un plan est un contrat d'argumentation, en somme, et qu'il faut donc articuler les parties de l'une à l'autre pour qu'on voit qu'on ne passe pas comme on tire un tiroir, et qu'à partir de là, ils construisent leur phrase de problématique, mais qu'ils ne commencent pas par la phrase de problématique.
Vous êtes d'accord avec ça, Garance Mazelier ?
Oui, moi je suis d'accord dans la mesure où le plan doit répondre à une problématique. En fait, la problématique, c'est un peu un outil pour se repérer. C'est une question qu'on pose au début de l'explication et à laquelle on va répondre pendant tout le fil du commentaire.
Donc on devrait avoir la question quand même avant d'avoir la réponse, non ?
Bah, ou alors trouver la jolie question qui correspondra le mieux au plan qu'on a trouvé.
C'est donc une mystification alors, la problématique.
Non, mais...
Disons, si je puis me permettre, si vous voulez, c'est que là, vous avez eu raison de revenir à l'explication de texte. Et c'est pareil, quand nous, on faisait une explication de texte, on commençait certainement pas par une problématique. Et la conclusion dégageait des éléments qui avaient été peu à peu analysés au fil du texte, une problématique. Donc je pense que quand même, c'est pas de la problématique que dépend l'explication.
Gauthier Amiel.
Ouais, je pense qu'en fait, moi ce que je dis à mes élèves en tout cas, c'est que le lien entre plan et problématique, c'est un dialogue en fait, notamment au moment où il faut trouver les axes, élaborer son plan. Il est certain qu'on peut pas a priori poser une question sans savoir ce qu'il va y avoir dans le texte. Donc dès qu'on sait ce qu'il y a dans le texte, on sait un peu déjà en fait, on a des pistes de ce qu'on va pouvoir en dire. Et le travail de tâtonnement du brouillon, c'est ce travail de dialogue entre ce qu'on veut dire, ce qu'il faut dire, ce qu'on espère pouvoir dire, et la problématique qui va venir un tout petit peu après et qui est un fil en fait, un fil rouge qui va limiter un peu le commentaire, notamment en plus dans le cadre d'un commentaire composé qui est une lecture forcément un peu partiale. Enfin, il faut faire des choix quand même, il me semble, dans le commentaire composé, alors que dans une explication linéaire, on pourrait ne pas faire forcément toujours des choix aussi drastiques. Mais comme le commentaire composé est une affaire de choix et d'organisation, il me semble que la problématique doit venir après, mais pour réduire et, être un fil rouge pour l'exercice.
Alors, comme on avance dangereusement dans cette émission, il faut passer au corrigé à proprement parler. Hélène Merlin-Cashman, quel est le vôtre sur donc le commentaire de la curée de Zola ?
Alors, je vais quand même commencer par ma problématique, alors. La problématique, ce sera comment une scène de la vie ordinaire se transfigure en scène quasi-fantastique et en allégorie de l'ambition démesurée. Donc, je vais simplement donner mes trois axes. Pas les sous-parties, vous êtes d'accord
si on avance. Comme vous voulez, oui, les trois axes pour commencer. Et puis on
donc, grand 1, une scène domestique inquiétante. Grand 2, une description narrativisée impressionniste. Alors, évidemment, les élèves ne vont pas tous connaître l'impressionnisme. C'est pas grave, ils peuvent y arriver.
Donc, l'impressionnisme en peinture.
En peinture, absolument. Voilà. Et troisième partie, la puissance dramatique du passage, la puissance dramatique et métamorphique du passage.
Est-ce que vous pouvez nous dire un tout petit peu comment vous en êtes arrivé là ? Qu'est-ce qui vous fait penser que c'est le plan qu'il faut appliquer ?
Personnellement, je cherche plutôt à rendre compte de la totalité du texte, le plus possible. Et la logique d'un plan, c'est toujours d'aller du plus simple au plus compliqué, du plus évident au moins évident. Et je ne dirais pas que là, la scène de la vie ordinaire est ce qu'il y a de plus évident, mais c'est le plus simple. Mmh.
Donc le repas entre voilà. Sacar et
les éléments de les éléments tout à fait référentiels au sens ordinaire, la fenêtre, la bouteille de Bourgogne.
Donc il suffit de dire finalement ce que le texte nous dit. Il y a un peu de paraphrase dans cette première partie.
Bah non, il vaut mieux toujours éviter la paraphrase, absolument éviter la paraphrase, parce que de toute façon, il y a des outils critiques pour parler de ça.
Gauthier Amiel.
Oui, alors juste pour répondre sur, rebondir pardon, sur ce que vous disiez, mais je dis souvent à mes élèves aussi que, en fait, la problématique type, de laquelle il faut se détacher, mais je leur dis toujours qu'il faut se demander comment est-ce que le texte nous dit ce qu'il dit. Et ce comment doit insister sur les procédés, et ces procédés sont chargés de sens, ou en tout cas, ils ouvrent un sens extrêmement pertinent. Enfin, on essaie en tout cas de chercher la pertinence dans ces procédés. Et voilà, donc il faut, voilà, pas paraphraser, mais c'est vrai que garder à l'esprit cette idée que le texte nous dit quelque chose et que c'est quand même ça aussi qu'il faut analyser, ce propos-là, il faut le garder à l'esprit.
Donc ça c'est pour la première partie. Garance Mazelier, vous avez réfléchi de la même manière. Est-ce que votre première partie ressemble à la première partie d'Hélène Merlin-Cageman et donc à celle de Gauthier Amiel, puisqu'on comprend dans ce que vous dites que vous avez une première partie un petit peu similaire?
Oui, tout à fait. Moi je suis extrêmement d'accord avec l'idée qu'il faut partir du plus simple pour arriver au plus évident. Et donc ma première partie c'est...
Au plus compliqué.
Oui, au plus compliqué, pardon, et au moins évident. La mise en place de l'intrigue romanesque du petit bourgeois parisien au spéculateur cupide. Donc de choisir de rendre compte du mouvement du texte et d'un caractère du personnage qui se dévoile petit à petit, en évitant évidemment la paraphrase.
Mmh. Alors comment vous poursuivez après votre plan, Garance ?
Alors ensuite, je parle d'une description fantasmée de la ville de Paris, d'abord par l'aspect impressionniste, donc l'idée que ce texte est un tableau
impressionniste. Pourquoi est-ce un tableau impressionniste ? Qu'est-ce qui vous semble si évident dans le côté impressionniste de ce texte-là ?
Alors moi j'avais repéré deux allusions quasi directes en fait à la peinture de Monet, c'est-à-dire les larges feuilles de nénuphar qui nagent sur un lac et le soleil se couchait dans un nuage rouge, qui font allusion au nymphéa d'un côté et à impression soleil levant de l'autre.
Vous êtes d'accord que c'est pas évident pour tous les élèves d'avoir ces références ?
Non, mais après, je sais pas si une copie qui n'en parlerait pas ou qui peut-être qui en aurait juste l'intuition serait très sanctionnée, mais en tout cas moi personnellement c'est ce que ça m'a évoqué.
Gauthier Amiel.
Oui, bah alors justement il est évident que l'impressionnisme est en sous-texte, enfin, mais c'est vrai que pour le corrigé que moi j'aurais proposé à mes élèves en n'ayant pas forcément travaillé sur l'impressionnisme avec eux, j'aurais aussi appelé ma deuxième partie une description fantasmée de Paris.
Fantasmée.
Alors fantasmée dans deux sens, d'une première un premier sens qui est halluciné, quelque chose se transfigure en fait, la ville de Paris est transfigurée par la vision de Sacar et par l'écriture, mais fantasmée aussi parce qu'en fait elle renvoie au fantasme clair de Sacar, enfin ce qu'il projette, en tout cas ce qu'il me semble projeter de ses envies et du futur qu'il cherche à atteindre.
Est-ce que ça suffirait d'évoquer la présence de la couleur, les références au rubis, à l'or ? Est-ce qu'on est obligé d'aller plus loin que cela ?
Les évoquer, oui, je pense que, puis vu la question de corpus, oui, il faut travailler sur cette partie descriptive du texte. Mais, encore une fois, il ne s'agit pas seulement de faire de la paraphrase ou de citer sans interpréter, sans analyser. Il faut aller un peu plus loin. Qu'est-ce que nous dit l'organisation ? Par exemple, j'avais fait toute une petite sous-partie sur l'organisation, la progression des couleurs. Comment est-ce que ça évolue ? Ça nous dit quand même quelque chose.
Oui, et puis il ne faut pas seulement évoquer juste l'impressionnisme et Monet en plaquant ce nom-là. Il faut aussi étudier la manière technique dont c'est fait dans le texte, avec un travail sur les couleurs et sur les nuances.
Hélène Merlin-Cageman, sur cette deuxième partie.
Oui, j'ajouterais personnellement que... Il y a une sorte de pointillisme de la description et même de la description au-delà de Paris. C'est-à-dire que mon souci étant aussi, une fois que je fais des remarques formelles, que je relève des éléments formels, où vais-je les placer, si je puis dire, puisque la consigne absolue, c'est de ne pas consacrer une partie à...
La description formelle.
À la description, donc éviter le contenu... forme, contenu, etc. Et un des éléments qui me frappe beaucoup dans ce texte, c'est qu'il est écrit dans ce qu'on appelle la syndète, c'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement pas de mots d'articulation logique. Les phrases sont... On l'a aussi bien dans les éléments de dialogue que dans la description elle-même ou que dans la narration. Au dessert, il fit apporter une bouteille de Bourgogne. Il souriait à l'espace. Il était d'une galanterie inusitée. On était à l'automne, la ville, etc. Et ceci soutient les éléments de description qui sont des touches en quelque sorte.
Donc il est impressionniste.
Les couleurs, c'est pas seulement parce qu'il y a des couleurs. Oui, voilà, absolument. Il est impressionniste en écrivant. Et les couleurs, c'est pas seulement qu'il y a des couleurs, c'est que ce sont des couleurs assez inattendues. Et qui ont à voir. Alors, c'est pour ça que je disais, c'est pas, au fond, on est aidé si on connaît l'impressionnisme, si on a vu des tableaux impressionnistes. Mais on devrait pouvoir le remarquer même si on connaît rien à l'impressionnisme. Et à savoir que il y a une attention à la lumière, et que c'est la lumière qui fait surgir les formes. Poussière d'or, rosée d'or, avec la répétition, la variation sur ce syntagme, poussière d'or, rosée d'or, la brume légère, des couleurs gris doux et tendres, très très inattendues pour une ville.
Enfin. Et alors, troisième partie, comment achevez-vous finalement la démonstration?
Alors donc la troisième partie, je l'ai intitulée « La puissance dramatique et métamorphique du passage ». Là, je me penche sur le jeu d'aller-retour entre le narrateur, qu'on dit omniscient, et Saka, puisque certains éléments de la métamorphose de Paris sont amorcés par la description, et puis la personnification elle-même est continuée par Saka. Et puis, je pense qu'il faut absolument mentionner cette personnification de Paris, le combat épique, un peu héroïque-comique de Saccard contre Paris.
Enfin, héroïque-comique en même temps, ça fait un peu peur parce qu'on sent qu'il y a quand même de la prédation.
Il veut absolument s'approprier cette ville
quand il la coupe d'un geste de sa main en quatre.
C'est absolument. Je pense que il y a les deux éléments. Sa voix devenait grave et émue. J'entends un peu d'ironie quand même du côté de Zola. Mm-hmm. Mais là, il y a la peur. D'ailleurs, il y a la peur de sa femme qui est mentionnée. Et je terminerai sur la topique de l'or. Là, je parle des sous-parties de cette partie qui permet une allégorie de l'ambition. Saccard devient le type même de l'ambitieux.
Gauthier Amiel, pour terminer votre troisième partie et puis conclure globalement sur le commentaire.
Oui, alors donc moi, ma troisième partie, je l'avais intitulée un portrait révélateur, peut-être en creux, des personnages. Alors j'avais une toute petite partie sur le personnage d'Angèle qui paraît insignifiant mais qui est en fait, je pense, un révélateur de bien des choses et notamment peut-être, en mon sens, Angèle incarne un peu la veine naturaliste parce qu'elle est la possibilité que Saccard ne choisit pas dans le texte, enfin pendant le dîner. Mais pour reprendre sur Aristide, en effet, j'ai une petite sous-partie sur Aristide, personnage ambitieux, mais aussi surtout sur Aristide, personnage inquiétant. Mm-hmm. En fait, il prend trois masques, à mon avis. À la fin du texte, il dit lui-même qu'il est un chimiste, hein, mais en fait c'est presque un alchimiste parce qu'il veut transformer le caractère pullulant, c'est un des termes utilisés dans le texte, le caractère pullulant de cette ville en or. Et à la fin, il se transforme donc avec ce coutelas, mais aussi en Néron, puisqu'il dit tout va brûler. Il est seul face à Paris qui va brûler, et donc c'est vraiment la figure de Néron très inquiétante et qui inquiète sa femme.
Rapidement, Garance Mazelier, troisième partie et conclusion.
Oui, alors moi j'avais plus insisté dans ma troisième partie sur la perspective historique dans laquelle s'inscrit ce texte pour
donc
parler
la transformation de la ville
de Paris et aussi la cohérence. Alors ça c'est peut-être moins ce qu'on attend d'un élève du bac, mais la cohérence de la fresque romanesque de Zola, parce qu'on retrouve par exemple l'allusion à l'alambic qui sert d'habitude à brasser de l'alcool et qu'on retrouvera beaucoup dans l'Assommoir, et puis surtout cette grande croisée de Paris, et l'idée que le texte s'inscrit dans les grands travaux d'Haussmann, qui voulait véritablement couper la ville en quatre, et donc faire le lien avec le titre.
C'est ce qu'il a fait d'ailleurs.
Oui, et faire le lien avec le titre de La Curée, qui est vraiment le dépeçage de Paris par tous ces spéculateurs.
« C'est toujours la compagnie des auteurs que vous écoutez et vous êtes bien sur France Culture. Nous révisons le bac de français depuis le début de la semaine avec aujourd'hui une émission remise des copies. Nous sommes pour ce faire avec Garance Mazelier, Gauthier Amiel et Hélène Merlin-Cageman. C'est le moment de parler de la dissertation en écho avec donc le texte de Zola que nous avons commenté en première partie, mais en écho lointain. Je rappelle la question de la dissertation. Dans un roman, les personnages ambitieux sont-ils les plus intéressants? C'est donc évidemment en lien avec le personnage de Saccard, hein, dont on vient de parler à l'instant, mais pas seulement. Alors comment s'y prendre? Un point sur la méthode, comme on l'a fait pour le commentaire, mais cette fois-ci sur la dissertation. Hélène Merlin-Cageman.
Alors première chose impérative, repérer quel est ce que j'appelle le champ d'application du sujet. Pour ne pas faire du hors-sujet, qui est l'un des péchés majeurs
de la dissertation.
Donc là, c'est très simple, c'est dans un roman. Il faudra donc ne prendre aucun exemple au théâtre, dans la poésie, au cinéma, voilà. Dans un roman, on est dans un roman. Ou pas de mémoire, pas d'autobiographie. Rien que des exemples
ça,
romanesques.
C'est très discriminatoire pour la note, c'est de suite une mauvaise note.
Comment on note après?
Si on prend Cyrano, était-il un personnage ambitieux, on a zéro? Même si c'est
non,
bien
parce
traité.
Que enfin, ça dépendra ensuite de la qualité de la copie. Si c'est une erreur où on voit que c'est un oubli, mais que par ailleurs la copie est excellente, qu'elle a quand même... elle n'a pas zéro exemple romanesque.
Enfin, quand même, il faut faire attention, quoi.
Il faut bien faire attention, les termes. Oui. Deuxième difficulté, qui est très fréquente dans les sujets de bac, c'est un sujet qui est une question. Pour faire un plan, je conseille, moi, toujours de transformer la question en affirmation ou en négation. Mais en insertion, de manière à ce qu'on ait une thèse, puisque c'est de cette thèse qu'on va discuter.
Parce qu'il faut faire attention à ne pas donner son avis en répondant à la question comme on répondrait dans le cadre d'une conversation.
Absolument. Il ne s'agit pas d'une longue digression autour de « moi j'aime ça, moi j'aime pas ça ».
L'ambition pour moi c'est ça.
L'ambition pour moi c'est ça. De toute façon, on ne demande pas à des élèves de parler de l'ambition en général, mais de personnages dans le roman. Donc, je transforme. Les personnages ambitieux romanesques sont intéressants, sont les plus intéressants dans un roman. Donc je vais en gros essayer de commencer par dire oui au sujet, donc de soutenir, de défendre, d'argumenter pour cette thèse qui plaide en faveur de l'intérêt majeur des personnages ambitieux. Cela dit, personnellement, personnage ambitieux, je trouve ça un peu court, donc j'ai élargi d'emblée aux personnages mus par l'intérêt. Par l'intérêt. Parce que comme ça permet aussi de penser à ces personnages rusés de toute une tradition romanesque.
Donc, mais vous ne faites pas là un hors-sujet, par exemple?
Non.
Non.
Enfin, pardon, je dois pas me contenter de dire non. Je le présente, je le justifie immédiatement dans l'introduction. Ambition, je vais l'entendre au sens large, au sens où l'ambition signifie qu'on est mu par l'intérêt.
Alors, tous les trois, vous avez choisi le même type de plan. Confirmation dans un premier temps, réfutation dans un second temps, et puis discussion dans un troisième. C'est une évidence pour vous qu'il fallait utiliser ce plan-là, Gauthier Amiel?
Dans la mesure où le sujet est une question à laquelle on peut répondre par a priori oui ou non. Oui, c'est un plan qui doit être dialectique. Je vois mal comment est-ce qu'on pourrait transformer le sujet pour proposer une réponse qui s'organiserait dans un plan thématique. Oui, c'est une évidence en fait.
Garance Mazelier.
Oui, pour moi aussi c'est plutôt une évidence et garder en tête pour les élèves l'idée que il s'agit pas d'être schizophrène et de dire oui, ce sont les plus intéressants. En fait, non, ce ne sont pas les plus intéressants, mais il faut quand même rester un peu dans la nuance.
D'accord. Alors, comment êtes-vous allé dans le développement de cette nuance, Garance Mazelier, votre plan?
Première partie, confirmation de la thèse selon laquelle les personnages de romans, les ambitieux, sont les plus intéressants. D'abord parce que c'est intéressant pour l'écrivain, là je me place du point de vue de l'écrivain, parce que le personnage ambitieux met à disposition une trame narrative, des ressorts romanesques qu'il peut utiliser. Donc là, j'ai pris
comme actions, quoi, avec voilà. Un personnage ambitieux.
Et donc j'ai regardé, par exemple, la construction d'un roman comme Belle Amie de Maupassant, parce que ensuite il faut penser aussi à des personnages ambitieux. Quand on pense personnage ambitieux, on pense tout de suite à Rastignac, à Belle Amie. Bon, donc là, j'ai regardé un peu la construction de ce roman-là. Donc pour l'écrivain, c'est intéressant parce qu'il y a une stratégie aussi qui se met en place. Et ensuite, dans une deuxième sous-partie, du point de vue du lecteur, c'est intéressant aussi, déjà parce qu'il peut s'agir d'une forme d'identification de la part du lecteur vers le héros ambitieux.
Si on est ambitieux.
Si on est ambitieux, ou alors il y a une...
Si on n'est pas, on peut s'identifier dans la deuxième partie.
Voilà, où il y a aussi une question de fascination du lecteur sur le personnage. Et là, j'ai pris l'exemple, par exemple, des Liaisons dangereuses, qui est donc un roman épistolaire, qui montre bien l'ambition des personnages, toutes les manipulations, les stratagèmes, et donc ça, avec l'intérêt que ça a pour le lecteur. Et ensuite, pour terminer cette première partie, j'ai parlé de la cohérence et des péripéties que pouvait connaître un roman ambitieux.
Oui. Gauthier Amiel, vous avez la même première partie à peu près? Est-ce qu'il y a des différences?
Non, les grandes idées sont semblables. Peut-être juste, moi ce qui m'intéressait dans le sujet, c'est que le personnage ambitieux, comme on l'a dit, c'est un type... vraiment très identifié,
identifiable.
Un type littéraire, oui, c'est, et un type au sens, un personnage comme l'entendait la Bruyère dans les caractères, en fait, c'est, normalement, un type, c'est quelqu'un de figé et que l'on reconnaît parce que ses traits sont figés. Et il me semble que, précisément, le type de l'ambitieux est celui qui doit faire un effort pour faire évoluer son caractère, hein, puisque s'il est mu par l'intérêt, s'il veut accéder à une place, des postes, à de l'argent, il va devoir rencontrer des gens et il faut qu'il se mette d'une certaine manière ces personnes dans la poche.
Donc ça crée des péripéties et c'est bon pour un roman intéressant, c'est ça ?
C'est ça, mais en plus ça crée aussi, c'est un type qui évolue en fait, c'est plus un caractère figé pour moi le type de l'ambitieux et c'est ça qui est intéressant, je trouvais. Par exemple, je parlais dans le corrigé de soit d'Aristide qui change de nom ou un autre exemple, un roman de Marivaux, Le paysan parvenu, où Jacob se transforme en Monsieur de la Mole, si je me trompe pas. Ah, voilà, il change de nom, il change de statut. C'est des personnages qui évoluent. Et donc, alors ça peut être un ressort de bien des choses, mais c'est ça qui est intéressant, c'est un type qui s'épaissit.
Donc c'est très intéressant d'avoir des personnages ambitieux, mais en même temps, c'est pas forcément très intéressant d'avoir des personnages ambitieux. Deuxième partie, Gauthier Amiel.
Oui, il me semble que la deuxième partie doit s'inscrire dans ce mouvement de discussion, et comme le disait Garance, c'est pas, il faut pas que ce soit quelque chose de schizophrène. En fait, on vient discuter le sujet. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de montrer que en fait, on a des personnages dont l'ambition est problématique. Mmh. Est-ce que c'est des personnages ambitieux? Est-ce que ça en est pas? Et pourtant, ils sont quand même souvent le support d'intérêt du lecteur.
Donc c'est le anti-héros?
C'est pas tout à fait l'anti-héros, ça jongle un peu, ça dépend en fait un peu comment est-ce qu'on l'analyse, et précisément ça serait la tâche de l'élève que de montrer, de justifier le fait que un personnage qui n'est pas ambitieux ou dont l'ambition est problématique est ou non un anti-héros. Mais voilà, des exemples un peu peut-être pour donner. Emma Bovary me semble être un personnage dont l'ambition est problématique. Et alors, vous en parliez lundi, et la chronique d'Eva Lesseau voilà, me permet de relancer ça, mais quand elle parlait de la platitude des métaphores, voilà, Emma est en fait un personnage qui est mu par quelque chose, elle voudrait avoir une autre vie, et en fait, elle reste bloquée dans les pages de ses livres et dans les pages du roman. Enfin, elle ne sort jamais, elle ne va jamais très loin, elle n'est jamais mue violemment.
Hélène Merlin-Cashman, vous êtes d'accord donc avec cette deuxième partie, et comment est-ce qu'on peut la dépasser encore dans une troisième partie?
J'ai pas fait ça en deuxième
partie. Ah, vous n'avez pas fait ça en deuxième partie, c'est très bien. Alors, qu'avez-vous fait?
Je l'ai intitulé « Des héros conduits par une grande passion ». Alors, la transition, c'était le cas de Julien Sorel dans « Le rouge et le noir », qui, toute figure de l'ambition qu'il soit, évolue, refuse de ne pas mourir à la fin, et qui est entouré par Madame de Rênal, Mathilde, grandes figures passionnelles. Donc ça, c'était la transition, pour dire qu'il n'y avait pas que les personnages ambitieux, ou plus exactement d'ailleurs, que l'ambition n'est pas la seule passion. Donc, des héros conduits par une grande passion, Monte Cristo ou la passion de la vengeance, la passion politique d'Étienne Mentier dans Germinal, la passion amoureuse de Madame de Clèves, transition, la princesse de Clèves. Dans la princesse de Clèves, il n'y a aucun personnage ambitieux. Et c'est vraiment toute une configuration
d'aimer, peut-être,
de personnages.
D'aimer ou d'être aimé, ça ne suffit pas comme ambition dans la vie? Ou en tout cas dans un roman.
Si on commence à jouer sur le mot, vous avez raison, mais c'est pour faire des transitions qu'il faut le faire. Mm-hmm. Sinon, on va dire oui, exclusivement oui au sujet. Donc, ma troisième partie, c'est des personnages en interaction. Et donc là, c'est des configurations. Je montre que ce qui intéresse dans le roman, ce sont des configurations de personnages, rarement un seul personnage. Ouais. Voilà.
Garance Mazelier, alors sur la troisième partie, est-ce qu'elle est comparable à celle que Hélène Merlin-Cageman vient de nous proposer?
Un peu, parce que j'avais voulu aussi faire une sous-partie en envisageant les interactions des personnages au sein d'un même roman pour en fait élargir la question en essayant de savoir en fait qu'est-ce qui nous pousse à lire un roman, parce que c'est le biais aussi qui est posé derrière cette question. Qu'est-ce qui nous pousse à lire un roman? Donc par exemple... Dans Belle du Seigneur, il y a deux types de personnages ambitieux. Il y a Solal, l'ambitieux majestueux, et il y a Adrien Deume, l'ambitieux raté, l'ambitieux bureaucratique. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir les interactions qu'ils ont les uns avec les autres.
Pour terminer sur ce plan, Gauthier Amiel.
Alors moi aussi, je m'étais concentré un peu sur cet élément qui, je trouve, est très problématique dans le sujet du mot intéressant, qui peut être difficile à saisir pour les élèves. Et du coup, en fait, ma transition, essayer de montrer qu'en fait, la question évoluait et que la question, c'était plus est-ce que le personnage ambitieux est le plus intéressant, mais qu'est-ce qui rend intéressant la lecture d'un roman. Enfin, en tout cas, c'était le mouvement de ma dissertation. Et donc, je me concentrais peut-être un peu plus sur des choses plus expérimentale ou plus métatextuelle, en essayant de montrer que certes il y a une histoire et que c'est pour ça qu'on est pris, une histoire avec des personnages et que c'est pour ça qu'on est pris dans un roman, mais qu'on ne lit pas un roman que pour ses personnages, on lit le roman aussi pour une écriture sans doute, et pour aussi la vision ou disons l'expérience vivante qu'il nous propose.
Et là on peut citer peut-être le nouveau roman par exemple.
Oui voilà, il me semble que le nouveau roman est un exemple, peut-être encore plus dans la veine expérimentale l'Oulipo, avec le roman Lipogramme de Pérec, La Disparition, qui est quand même une manière singulière de voir le monde. Il me semble que lire ce roman, c'est une véritable expérience et qu'à ce titre-là, c'est intéressant. Et le personnage est absent, en fait, puisque c'est le « e ».
Qu'est-ce que vous pensez, les uns et les autres, pour conclure, finalement, de ce sujet? Est-ce que c'est un sujet qui vous paraît tout de même difficile, ne serait-ce que dans la définition de ce mot intéressant? Qu'est-ce que c'est que quelque chose d'intéressant? On pourrait presque passer la dissertation sur ce sujet-là. Hélène Merlin-Cageman.
Oui, je dirais aussi même la définition d'ambition. D'ailleurs, nous l'avons vu dans notre échange tout à l'heure. Donc, je trouve très difficile. Et bon, le conseil que je crois qu'il faut toujours donner aux élèves, c'est qu'il ne faut pas paniquer. Parfois, il arrive que des sujets soient difficiles intrinsèquement et que si rien ne leur vient à l'esprit, ça n'est pas eux.
Ça n'est pas grave,
enfin,
il faut quand même qu'ils.
Mais à ce moment, voilà, c'est ça. Mais il faut ruser intelligemment, c'est-à-dire ruser sans partir dans n'importe quoi. Mais je crois que ce que nous avons.
Quelle branche, alors?
Et je pense que l'idée de rebondir en troisième partie sur le mot intéressant est une solution, par exemple.
Mmh.
Je me suis concentré sur les personnages. La problématique, ça aurait été qu'est-ce qui nous captive dans un personnage de roman. C'est-à-dire, moi, j'ai pris le sujet comme portant sur le personnage de roman. Ça, c'était, à mon avis, le plus simple, le plus sûr pour un élève. Voilà.
Un mot là-dessus, Gauthier Amiel?
Oui, il me semble qu'il ne faut pas avoir peur d'un sujet qui serait difficile, mais vraiment essayer de se débattre. Et pour parler correction, on valorisera toujours, je pense, une copie d'un élève qui essaie vraiment de se débattre, même si il y a des imperfections, même si il n'y a pas trois parties, trois sous-parties, même si c'est ce qu'on aime, et ce qu'on peut attendre parce que c'est extrêmement stimulant. Un élève qui fait l'effort de se débattre avec ça, voilà. Et puis, de toute façon, il a 4 heures, il est un peu obligé Mazelier d'être là.
Il faut qu'ils se débattent.
Donc, voilà, exactement.
Garance Mazelier,
oui,
pour terminer.
Tout à fait d'accord. Je pense que le sujet était difficile parce qu'il demandait un certain recul et une prise de distance aussi par rapport au sujet de la part des élèves, mais qu'il faut toujours essayer de se raccrocher au roman qu'on a lu. Voilà.
Merci beaucoup à tous les trois. Merci Hélène Merlin-Cajman. Je rappelle que vous êtes professeure de littérature à l'Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Un de vos derniers ouvrages a paru en 2016 chez Gallimard. Il s'appelle « Lire dans la gueule du loup ». Et c'est sur une zone à défendre la littérature. Petit Amiel, vous êtes agrégé de lettres modernes, professeur de français au lycée Frédéric Mistral de Fresnes. Et Garance Mazelier, vous êtes étudiante en littérature et stagiaire à la Compagnie des auteurs. C'était donc notre spécial Bac de français, une émission de Laurence Millet, Laurence Genepin et Théo Gomard. Lundi prochain, on retrouve le cours normal de nos émissions avec une série consacrée à l'écrivain algérien Kateb Yassine. Mais tout de suite, c'est la poésie avec Jacques Bonafé.
Bonjour, bonjour la compagnie. La Fontaine composa ses fables « Théâtre de la parole », disait-il. Valerno Varina, lui, a écrit le théâtre des paroles. C'est paru chez POL. Celui qui nous parle vraiment, peut-être qu'il nous informe un peu sur lui et sur le monde, mais il y a surtout, au centre invisible de sa parole, l'étonnement d'avoir des mots. Dans toute vraie parole, il y a quelque chose qui s'offre, en muet, mais qui est comme le mystère même de parler. Altela Kiji, Ik est ici, et la tombe de l'enfant écarnicien du temps que je fus de temps en temps, extrait du discours aux animaux aux éditions POL. Ce crâne au bout de mes dents est-il celui d'enfant qui existe? Ik est la tombe de l'enfant charnicien du nom. Rien plane au-dessous, rien plane au-dessus. Salut, espace petit, tout froid soleil, hauteur toute basse, plafond sous planche, j'ai vécu dans des lieux dont on connaît plus les endroits. Quand on écrit, dit Valerno Varina, c'est-à-dire quand on parle tout seul, quand on use, quand on brûle son temps, sa vie, à persister à parler tout seul, on doit se souvenir d'avoir été un animal. On marmonne comme un vieux singe qui danse en solitaire, qui s'entête dans sa dépense inutile comme un vieux sourd qui n'entend plus l'orchestre, qui danse et qui va tomber. Écrire, c'est ça, nous dit Jean-Pierre Verheghen dans Artaud, Rimbure, et nous le prenons en écho de ces paroles de Valerno Varina. Écrire, c'est ça. C'est d'abord découvrir qu'on a en nous ce trou de mort à langue trouée où s'entassent pêle-mêle ces langues de Tirayou du Tchad et de Kajar et Bayou, cousins des ex-Baddaf, eux-mêmes matassins nécropolitains des Rastas de Squat, matachés de Wolongadoudou, comme chez nous, à Jean Blou. C'est comprendre et aimer ça, quitte à avoir l'air d'avoir trop soufflé dans l'encrier du Nexus Ultra, et dans le même temps, c'est accomplir ce geste insensé de Noria dans le Nada. C'est accomplir l'inlassable monotonie résistante de cet acte fou. C'est faire et aligner des bâtons. C'est en baver des chevintés et en chier des mous. C'est chier dans ce trou. C'est devenir soi-même un bâton. Être le bâton de cochon de ce corps, mal fait, mal conçu, mal planté et mal baisé qu'on nous a cochonné. C'est tenter, jour après jour, d'en esquisser le contour et d'en déboucher le brouillon. Tenter d'actionner avec une folle envie concomitante de tout bousiller cette saloperie de colonne à pression qui nous sert de prothèse à langue. C'est tenter de la mocher, de l'écrabousiller et d'en boucler le dalot, de la bourrer ou mâchurer de mots, de la barbouiller de bamboula, de la peinture lurée aux couleurs très peu françaises, de ce qui en sourd ou s'y tait, dans l'hystérie crispée d'une motilité sans nom, c'est tâcher de mettre des noms là-dessus, tâcher de dénouer ce rébus et de désigner cet os. Par où et par quoi on l'a dans l'os.
Jacques Bonafé avec la fin de cette semaine intitulée « L'étonnement d'avoir des mots autour de l'artiste et homme de théâtre Valerno Varina ».